RCF.
Regard sur la solidarité. Une émission en collaboration avec les radios chrétiennes du Grand Ouest.
Rencontre aujourd'hui avec Fabrice Morando, non-voyant, qui, nous allons le voir tout au long de cette émission, a plus d'une corde à son arc. Nous allons le découvrir dans son quartier, donnant des cours d'espéranto, mais étant aussi auteur, compositeur, interprète. Fabrice Morando, merci de nous accueillir chez vous. Est-ce que vous êtes non-voyant depuis la naissance ou c'est venu au fur et à mesure de la vie?
Alors, c'est un peu la question qu'on pose à tous les handicapés en général. Est-ce que c'est acquis ou inné? C'est votre question. Eh bien, dans mon cas, c'est un peu compliqué puisque je suis né non-voyant. J'ai été opéré à l'âge de 5 mois, 7 mois, une fois d'un œil et une fois de l'autre. Et puis, à l'âge d'un an, j'ai commencé à voir, ces opérations ayant réussi. Et j'étais malvoyant, c'est-à-dire que je pouvais faire du vélo, par exemple, à la campagne, en plein jour. J'ai vu les visages des gens, j'ai vu le ciel, j'ai vu les montagnes, les océans. Voilà, mais je voyais un dixième, ça peut paraître peu, mais c'était beaucoup pour moi. Et puis, entre 12 ans et 17 ans, suite à différentes complications, ma vue a de nouveau diminué pour disparaître complètement. Et depuis l'âge de 17 ans, je suis à nouveau complètement aveugle.
Quand vous étiez enfant, comment viviez-vous cet handicap quand même de ne pas être tout à fait comme les autres?
Alors, quand j'étais enfant, j'avais deux vies. J'avais la vie à la maison, dans mon village. Je suis né en Vendée. Avec mes parents, entouré de beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, mes frères et sœurs. Et la semaine, j'avais une autre vie. J'allais à ce que j'ai appelé plus tard dans une de mes chansons, l'école des aveugles. Puisque à l'époque, l'intégration en milieu scolaire normal, ou dit normal, était moins développée qu'aujourd'hui. Et donc, de l'âge de 5 ans et demi à l'âge de 19 ans et demi, j'ai fait toute ma scolarité à partir du CP en milieu spécialisé. Donc là, j'étais en internat. Alors, c'était assez dur. Moi, j'avais de la peine à supporter la séparation avec mes parents. Pourtant, je rentrais toutes les semaines, tous les week-ends. Donc, malgré tout, malgré la difficulté de la séparation, la vie dans ce milieu était quand même assez sympathique. On était entre handicapés visuels, on avait de bons professeurs, on avait une bonne instruction, on apprenait la musique, etc. Et puis, le week-end, quand je rentrais chez moi, bien, j'étais un enfant assez solitaire, puisque ne fréquentant pas les mêmes écoles que les enfants de mon village, je les connaissais peu. Voilà. Donc il a fallu attendre l'adolescence et que finalement cette diminution progressive de la vue pour que un cousin vienne me voir à l'hôpital et puis on sympathise, un cousin au deuxième degré. Puis finalement on est devenu copain, il m'a présenté ses autres copains et là à l'adolescence j'ai commencé à connaître les jeunes de mon village. Par un cruel coup du sort, il a fallu que finalement je perde le peu de vue que j'avais pour finalement rencontrer les autres.
C'est là qu'est venue l'idée de s'ouvrir à la musique?
Alors la musique c'était... dans les écoles spécialisées pour handicapés visuels, une obligation. On dit souvent qu'il y a beaucoup d'handicapés visuels qui sont musiciens. On dit « Ah, c'est parce qu'ils entendent mieux, ils écoutent mieux que les autres. » Peut-être qu'ils écoutent davantage que les autres, mais en fait, la musique, c'est tout simplement que à l'âge de 6 ans, 7 ans, on mettait tous les handicapés visuels à faire une heure de solfège, une heure d'instrument par jour. Alors, il y en a beaucoup qui arrêtaient, évidemment, tout le monde n'était pas fait pour ça. Mais ça fait quand même qu'on a une bonne proportion d'handicapés visuels, musiciens, en tout cas de ma génération. Et donc, voilà comment je suis venu à la musique, un petit peu par obligation au départ.
Et ensuite, comment vous avez pris votre vie en main?
Alors, quand je suis sorti de l'école, j'ai d'abord eu un chien guide. Et puis, petit à petit, j'ai appris, mais bien après, les techniques de déplacement avec la canne blanche, qui est vraiment une chose extraordinaire. La locomotion, ce qu'on appelle la locomotion, se déplacer de façon autonome, ça s'apprend. Il y a des techniques, il y a des gens qui enseignent ici au Mans. Il y a une instructrice en locomotion qu'on peut trouver facilement sur Internet, même QSO. Et puis il y a des choses à apprendre, comme les activités de la vie journalière. Ben, il faut apprendre à se débrouiller aussi de façon autonome. Tout ceci s'appelle la rééducation fonctionnelle pour handicapés visuels. Moi, je l'ai connu assez tardivement, bien qu'ayant été dans une école spécialisée, ça peut paraître curieux. Mais toutes ces techniques n'étaient pas enseignées. Et donc, petit à petit, j'ai appris à devenir autonome. J'ai quitté le domicile parental vers l'âge de 25 ans à peu près. J'ai loué une maison et puis après je suis allé vivre à Paris pendant pas mal d'années. Je suis retourné faire des études à l'université pour le coup. Après avoir eu un diplôme d'enseignement de la musique, j'ai eu un diplôme de lettres modernes et puis de sciences du langage. Et donc je me suis investi dans beaucoup d'associations. J'ai fait partie d'un groupe folklorique, du théâtre, j'ai accompagné un chanteur, j'animais des soirées dansantes, j'ai joué dans des orchestres. J'ai donné des cours aussi, puisque j'avais un diplôme de professeur de musique. Voilà, et au travers de toutes ces activités, et puis aussi de l'espéranto, j'ai dirigé en Vendée l'association Espéranto Vendée. Voilà, au travers de toutes ces activités, je suis devenu très très social. J'ai connu beaucoup de gens au travers de divers réseaux. Donc, bah, vraiment, j'estime que j'ai une vie à peu près comparable à celle que tout un chacun peut avoir.
Fabrice Morando, finalement, dans ce que vous nous dites, il faut du temps, il faut s'ouvrir petit à petit, c'est des pas, c'est avoir quand même une certaine confiance en soi, se dépasser au fur et à mesure.
Oui, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Pour les gens qui éventuellement se sentiraient devenir déficients visuels, ça prend du temps. Il y a plusieurs aspects à considérer. Il y a l'aspect psychologique, si vous pouvez éventuellement aller voir un psychologue ou je dirais un psychiatre, donc il y a des psychiatres qui ne donnent pas spécialement de médicaments mais qui sont là pour vous écouter, vous accompagner, c'est important. Plus justement, il y a l'aspect social dans son entourage, les relations vont peut-être un petit peu se modifier, on va peut-être trop penser ce que pensent les autres, donc n'ayons pas peur de ce que pensent les autres ils pensent rien de particulier, ils sont là pour découvrir avec vous ce qui vous arrive et comment ils peuvent vous aider, donc exprimez vos besoins. Allez surtout vers une rééducation fonctionnelle, c'est le plus important. C'est la chose où vous allez avoir un psychologue au centre de la formation et différents professionnels qui vont vous apprendre à vous déplacer, qui vont vous apprendre à vivre dans la vie quotidienne, qui vont vous apprendre à utiliser l'informatique, le braille si nécessaire, les caractères agrandis pour ceux qui resteront malvoyants, etc. Il y a des tas de ressources, mais vraiment, ce qui est important, c'est de rencontrer, d'aller vers les bonnes personnes. Et les bonnes personnes, c'est la rééducation fonctionnelle, ça c'est l'essentiel. Et puis, il y a l'aspect économique aussi, voir si on peut continuer dans le même travail où on est, si on a un travail, si on veut trouver un autre travail. On peut se réaliser aussi tout à fait dans le cadre bénévole. On peut, si on a des allocations suffisantes pour vivre, on peut tout à fait se réaliser dans le cadre associatif. Voilà, donc il y a des tas de façons.
Quand on vous écoute, Fabrice Morando, s'ouvrir aux autres, en fait, apporte beaucoup. Mais c'est sûr, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il faut arriver à se dépasser. Et là, que l'on soit non-voyant ou voyant, je dirais que c'est la même question. Alors, vous êtes venu donc à la musique quand vous étiez jeune. Aujourd'hui, vous êtes auteur, compositeur, interprète.
Alors, effectivement, j'ai eu la chance d'apprendre le solfège tout petit, dès l'âge de 6 ans. C'était bien difficile et contraignant au départ. Mais j'en suis très heureux aujourd'hui parce que je peux maintenant écrire en braille ma musique et même grâce à des logiciels pouvoir la transmettre à des personnes voyantes. Donc ça c'est super. L'instrument préféré, ben, c'est l'accordéon. J'ai appris le piano d'abord, l'accordéon, la guitare. Celui avec lequel je suis le plus à l'aise, c'est l'accordéon. L'accordéon ne permet pas de faire que du musette, contrairement à ce qu'on a tendance à penser en France. L'accordéon, c'est aussi un instrument classique. On peut jouer du Bach, par exemple, c'est magnifique avec les accordéons de concert. Et en Russie, par exemple, c'est un instrument roi, au même titre que le piano ou le violon. On peut jouer du jazz. En France, nous avons Richard Galliano ou Marc Perron, par exemple. On peut jouer de la musique traditionnelle. Voilà. Et moi, j'accompagne mes chansons à l'accordéon, d'une part parce que l'accordéon, c'est un instrument qu'on peut transporter sur son dos. Donc quand on a une canne blanche dans une main et un peu besoin de l'autre main des fois pour faire deux ou trois choses, on n'a pas de disponibilité pour porter un instrument. Donc l'accordéon, ça se transporte sur le dos. Ça peut, sans amplification tout à fait, permettre de faire des spectacles devant 50. J'ai déjà joué devant 150 personnes sans amplification et chanté, donc c'est pas un problème. Je peux même m'en servir à l'église, dans l'église de notre paroisse, la paroisse Saint-Bertrand. De temps en temps, on joue de l'accordéon pour accompagner les chants. Et je pense que ça sonne très bien, vous pourrez en témoigner.
Tout à fait.
Voilà, donc vraiment l'accordéon est un instrument qui permet tout. Je joue, continue quand même à jouer un petit peu de piano et un petit peu de guitare aussi. Et puis je chante donc les chansons des autres. J'ai beaucoup chanté dans des orchestres, j'ai chanté dans des cafés. Les bars à Marins, à l'Île-Dieu, où j'aime bien aller, par exemple. J'aime beaucoup la chanson de Marin aussi. Et puis, j'écris mes propres chansons qui parlent un peu de mon histoire, de citoyen de la terre, non-voyant, avec mes propres douleurs, mes propres joies. et puis qui parle aussi d'anecdotes, de métiers. Par exemple, une chanson qui parle des chauffeurs de bus, c'est une chanson qui s'appelle Chauffeuse, ou alors à l'opposé, une chanson qui s'appelle Colère obscure, par exemple, qui parle de ma colère quelquefois d'être non-voyant, parce que on a beau dire qu'on peut être non-voyant et que c'est possible, c'est quand même pas tous les jours rigolo, faut quand même pas se voiler la face. On a le droit aussi d'être en colère et de dire que bah oui, c'est pas marrant de ne pas voir, bien sûr, faut pas jouer les clowns, hein. On peut se cacher derrière une façade, mais n'empêche que des fois les difficultés de la vie vous rattrapent, elles sont là, faut pas les nier.
Eh bien, on va écouter justement un extrait de cette chanson.
Quand j'ai entrevu, ô Père Dieu, le déclin d'œil du malvoyant, moi qui déjà me croyais vieux, j'ai douté en adolescent. Quand par toi j'ai vu l'île Dieu, île au nom pour moi malveillant, moi qui ne croyais pas en Dieu, j'ai vu le paradis vivant. Mais je ne vois pas clair, ne suis pas clairvoyant, et tu cries au éclair, et tu crois, et pourtant, si tu regardes vers ceux qui ont des blessures, qui rient d'avoir souffert, souffert, au clair obscur, si je n'ai su te plaire, sache que j'ai des blessures, et que la lumière pure qu'on voit dans un éclair, le plus souvent ne dure pas plus que le tonnerre.
Regard sur la solidarité. Une émission en collaboration avec les radios chrétiennes du Grand Ouest.
Fabrice Morando, on vient d'écouter un extrait de votre chanson, Colère obscure. Vous le disiez, il y a des moments où on est en colère, où on refuse cette vie difficile. Mais vous ne perdez pas espoir, vous poursuivez, vous continuez votre bonhomme de chemin, si je puis dire. Et vos chansons, eh bien, vous allez même les chanter en appartement.
Voilà, en appartement, ou pourquoi pas dans les maisons des gens qui voudraient m'accueillir. Comme je suis au Mans seulement depuis un an, j'ai vécu avant longtemps à Paris. Je découvre petit à petit la vie mancelle et les manceaux. Comme pour l'instant je ne suis pas très connu, il y a une personne qui m'a proposé à l'automne de venir chanter chez elle. Alors elle a réuni une vingtaine de personnes, et puis elle avait une pièce assez grande pour le faire, une vingtaine de chaises, c'est simple, et puis on prend un petit pot après ensemble. Donc il y a des chansons qui parlent du handicap, il y a des chansons qui parlent de l'espéranto, il y a des chansons sur différents sujets. Et donc l'intéressant, c'est d'une part qu'on a un peu une intimité. Moi j'aime beaucoup dans mes spectacles avoir faire passer des émotions diverses et variées, la colère, mais aussi la joie, la tristesse, le rire, voilà, tout ça passe. Et ça passe d'autant plus quand on est comme ça dans un petit groupe. Et puis après, ce qui est intéressant, on est assis tous ensemble comme ça dans le salon, et puis on discute des sujets qui ont été abordés dans les chansons en prenant un petit pot, en mangeant un bout de gâteau. Donc voilà, s'il y a des gens que ça intéresse, les auditeurs, je me permets de laisser un numéro de portable où ils peuvent me joindre. 06 63 74 07 54, je redis, 06 63 74 07 54. Et puis si mon nom leur paraît un peu long à retenir, j'ai un nom d'artiste qui prend la première syllabe de mon prénom et la première syllabe de mon nom, et ça fait Famo, F-A-M-O, Famo, voilà, qui en espéranto veut dire comme fame en anglais. Voilà, mais c'est toute prétention mise à part, c'était juste une coïncidence amusante.
Oui, on peut citer le site internet famo.free.fr. Comment vous êtes venu à l'espéranto ?
Alors, l'espéranto, c'est dans les années 80, sur France Inter. On a eu une série d'émissions qui, pendant tout un été, je crois en 88, proposait des cours d'espéranto au quotidien avec une animatrice qui s'appelait Brigitte Vincent, que j'aimais beaucoup, et puis un professeur qui s'appelait Richard Crummerfort. Et tous les jours, pendant 10 minutes, on parlait d'espéranto, on donnait des petites leçons et puis on faisait gagner des méthodes. Et puis je me suis dit, mais c'est génial cette idée, parce que franchement l'idée d'avoir une langue qui a priori sonnait très jolie, d'une part, qui en plus était internationale au vrai sens du terme, c'est-à-dire internationale, entre les nations, c'était complètement nouveau pour moi, puisque toutes les langues qu'on dit internationales, par exemple le latin en son temps, l'anglais aujourd'hui, sont des langues, pour le latin de l'Empire romain, pour l'anglais d'aujourd'hui des États-Unis, qui sont des empires qui s'imposent à toutes les autres nations et qui font une espèce d'impérialisme linguistique. Et là, on a une langue qui a été inventée pour être neutre, pour être entre les nations. Elle n'appartient à aucune nation et elle est vraiment internationale. Et en plus, elle a été conçue à la fin du 19e siècle par un polonais qui s'appelait Zamenhof, dans le but d'être, si possible, simple à apprendre. Alors, elle a toutes les subtilités d'une langue, donc quand on veut vraiment creuser et découvrir toute sa littérature, tout son théâtre, etc., il y a toute la richesse d'une langue. Mais au départ, au moins, il y a des choses très simples, comme l'orthographe, par exemple. Chaque lettre se prononce d'une seule façon, donc quand on sait prononcer, on sait écrire. La conjugaison, par exemple, il y a une terminaison par temps, il n'y a pas de complications de personne ou de groupe. Donc voilà, il y a des choses qui sont comme ça très motivantes dès le départ. Et j'ai appris, donc, en fait, au bout de quelques années, en 93, quand j'avais un peu plus de temps dans ma vie, je me suis mis à apprendre rapidement l'espéranto. Et en plus, je me suis mis à chanter en espéranto, donc en apprenant des textes de chansons, j'ai rapidement appris du vocabulaire. Et quand je suis arrivé au Mans, ici, j'ai trouvé ma place tout naturellement dans l'association qui s'appelle Groupe Espéranto du Maine, association locale, où je donne maintenant des cours d'espéranto pour ceux qui ont déjà au moins un an de pratique. Et donc le but, c'est de parler davantage et de découvrir la culture espérantophone. On donne ces cours au centre social Simone Veil, la grande maison, donc dans le quartier Saint-Lazare.
Merci pour ces informations. Alors vous êtes un homme qui bouge énormément, qui s'investit dans plusieurs associations, et vous êtes aussi dans la vie du quartier, le conseil de quartier. Vous avez même rejoint l'association Eclipse, et là ça c'est important, cette association, parce qu'elle a deux buts, convivialité mais aussi pour que la société prenne en compte le handicap.
Voilà, l'association Eclipse, voire autrement, est née il y a déjà plus de 10 ans, 12-13 ans, j'étais pas encore là. Et du désir d'un certain nombre de non-voyants de prendre en main leur vie et la gestion de leur association. Donc ils ont créé leur association statutairement. On a moitié, au moins deux handicapés visuels qui sont administrateurs, c'est important. Et puis, donc ils ont dit, nous on sait ce qui nous intéresse, on sait de quoi on a besoin, donc on va essayer de développer ça. Donc ils ont bien sûr développé des activités récréatives. On joue aux cartes, comme tout un chacun, à la belote, au tarot, on joue au Scrabble, etc. Il y a des après-midi récréatifs tous les mardis à la maison de quartier Jacques Prévert. Et puis, il y a aussi des activités de sensibilisation, où là, on va aller vers les gens pour parler du handicap visuel. On va aller faire découvrir dans des musées, par exemple, dans des lieux culturels, au cinéma, au théâtre, pour voir un petit peu comment les handicapés visuels peuvent participer à la vie culturelle. Par exemple, au cinéma et au théâtre, par l'audiodescription. Dans les musées, on va faire, par exemple, on a fait une action avec le musée Carnuta récemment pour aller faire toucher des arbres, sentir la forêt. Voilà, montrer que par notre différence, on apporte quelque chose en plus et qu'on n'est pas des boulets, des poids. Hein, et que, au contraire, on peut apporter à la société quelque chose d'intéressant. Et c'est ça qui est intéressant dans la différence, hein, bien sûr. Aujourd'hui, c'est très important de le dire, on a beaucoup peur de la différence. Ben, au contraire, je pense que cette différence est nourrissante.
Oui, alors j'allais vous poser cette question. Certains vous diront, mais oui, mais moi je ne sais pas comment faire avec une personne qui ne voit pas, comment entrer en relation. En fait, ça se fait naturellement.
Alors, ça se fait naturellement, tout simplement, d'abord en pensant à une ou deux choses. D'abord en n'ayant pas peur, mais je comprends très bien que ça fasse peur de ne pas être vu. C'est-à-dire que quand on voit, la première prise de contact, c'est par le regard. Quelqu'un, on se regarde et puis là, on sait qu'on peut s'adresser la parole. Et là, vous n'avez pas le feedback du regard. Donc, il y a quelque chose qui manque. Donc, si vous avez envie de vous adresser à quelqu'un qui est handicapé visuel, que ce soit pour l'aider ou pour lui poser une question, pourquoi pas. D'abord, placez-vous si possible face à la personne, dites-lui bonjour, hein, c'est la première chose, mais des fois quand on veut aider, on est tellement, on en a peur et puis on pense même pas à dire bonjour tout simplement. Si vous n'êtes pas sûr que la personne vous entend, n'hésitez pas à poser sa main sur son bras, par exemple, bonjour monsieur, bonjour madame, pour bien lui montrer que vous lui parlez, et puis à demander, si vous voulez l'aider par exemple, demandez si elle a besoin d'aide, et puis demandez comment vous voulez qu'elle l'aide. Parce que souvent, on veut imposer quelque chose. Attendez, monsieur, je vais vous aider à traverser. Est-ce que vous êtes sûr que la personne veut traverser? Est-ce que vous savez comment elle veut être guidée? Est-ce qu'elle veut vous tenir le bras? Est-ce qu'elle veut vous tenir l'épaule? Voilà, donc demandez-lui, tout simplement. Demandez-lui ce que vous ne savez pas. Et elle vous aidera bien volontiers. Si d'un autre côté, elle n'est pas disponible, parce qu'elle aussi, elle a ses soucis, elle a ses difficultés, et qu'elle vous dit non, même si elle vous répond un petit peu sèchement, ne vous offusquez pas, parce que ça se peut qu'elle est concentrée, qu'elle est peut-être en train d'apprendre un trajet, elle est peut-être... Il y a des personnes qui comptent leurs pas. Normalement, on ne devrait pas avoir besoin de compter ses pas quand on sait bien les techniques de locomotion, mais il y en a qui fonctionnent comme ça, des gens. Donc, faut accepter aussi que vous pouvez la déranger, donc si elle vous répond de façon à vous faire comprendre que elle est pas disponible, c'est pas grave, la prochaine fois ne vous découragez pas et n'hésitez pas à lui reparler ou à reparler à une autre personne handicapée visuelle.
J'aimerais vous donner des idées. J'aimerais vous donner des histoires. Vous donner des musiques à manger et à voir. Des images, des mystères, des miroirs. J'aimerais vous donner des pensées. J'aimerais vous donner des pouvoirs. Donner des effrois à toucher et à boire, des émois, des moissons, des mémoires. Quelle est ma vocation, s'il vous plaît, j'aimerais vous être utile.
Regard sur la solidarité, une émission en collaboration avec les radios chrétiennes du Grand Ouest.
Fabrice Morando, on n'en a pas parlé, mais vous êtes croyant. En quoi votre foi vous aide ?
C'est difficile à dire, justement, c'est bien là tout le mystère de la spiritualité, c'est qu'on ne sait pas trop comment elle nous aide. Simplement, je sais que les jours où je prie, ça va mieux. Et des fois, quand ça va mal, j'oublie peut-être de prier aussi. Et puis, comme par hasard, moi je prie, moi ça va bien. C'est assez bizarre. Je suis pourtant quelqu'un qui a longtemps fui la religion à l'adolescence. Mes parents m'amenaient à l'église toutes les semaines. Et à l'adolescence, comme beaucoup, j'ai fui l'église parce que je comprenais pas pourquoi on disait que fallait guérir le handicapé de ses péchés ou nettoyer l'aveugle, etc. Je comprenais pas. Pourquoi est-ce que nous, les handicapés, on aurait commis des péchés? Je comprenais pas ça. J'étais très révolté par ça. Et donc j'ai dit, ça me va pas. En plus, mes parents m'emmenaient à Lourdes. Et moi, je croyais que c'était parce qu'ils voulaient que je retrouve la vue, parce qu'ils m'acceptaient pas comme j'étais. Et donc ça aussi, ça me révoltait. Donc j'ai fui tout ça pendant très longtemps. Et en 2008, je suis allé faire une retraite spirituelle dans un monastère bénédictin. Ça m'avait été conseillé par ma psy à l'époque, qui était chrétienne. Et puis je cherchais un lieu pour me retirer un petit peu. Puis elle m'a dit, pourquoi vous n'iriez pas dans un monastère? Moi, j'ai dit, pourquoi pas? Et elle connaissait. Voilà, je suis allé dans le Pays Basque. Et là, dans le silence, j'ai vraiment découvert plein de choses et redécouvert plein de choses. Et puis j'ai pu parler avec des moines bénédictins qui sont là à méditer depuis 50 ans, 60 ans, qui réfléchissent sur la Bible. Il y en avait un, par exemple, qui avait traduit la Bible en basque. Ça me paraissait pharaonique, incroyable. Donc des gens qui connaissent bien le sujet. Et je lui dis ça, je lui dis, mais mon père, mais comment est-ce qu'on peut... On se promenait, c'était incroyable, il faisait beau. C'était en février, il faisait 17-18 degrés. Et on se promenait dehors, tous les deux, on devisait. Et je lui dis, mais comment ça se fait que dans la Bible, comme ça, on dit qu'on lave les handicapés de leurs péchés, etc. C'est pas possible. Et il m'a dit, mais vous savez, pour moi, j'ai pas la science infuse, mais il m'a dit, pour moi, par exemple, le handicapé physique, dans la Bible, c'est peut-être juste celui qui est empêché d'être en mouvement. Et on est tous en mouvement dans notre vie, en mouvement dans notre histoire, dans notre spiritualité, dans notre psychologie. Et là où on est empêché, et empêché en deux mots et en un mot, c'est justement quand on peut plus avancer. Mais c'est peut-être une métaphore, tout simplement, ce handicapé de la Bible là que Jésus lave de ses péchés. Et l'aveugle, on peut prendre la même chose. On dit souvent l'aveugle, c'est celui qui est empêché de voir. Faut pas tomber non plus trop dans la métaphore. On est aveugle, ok, on est aveugle, on a un sens qui est pas là. Et c'est pas parce qu'on a commis quelque chose de mal. Et ça, il a fallu discuter avec ce prêtre pour me réconcilier avec les textes bibliques, déjà dans un premier temps, pour ensuite retourner à l'église, éprouver un plaisir de retourner à l'église. Et maintenant, j'aime beaucoup la liturgie, c'est vraiment quelque chose que... Voilà, je ne partage pas tous les dogmes de l'église, bien loin de là. Il y en a même que je ne comprends pas, mais ce n'est pas grave. Par contre, je sais que la liturgie, être ensemble, chanter ensemble, écouter un texte ensemble, écouter l'homélie, puis pouvoir en discuter éventuellement après, prier, même si je ne comprends pas trop comment ça fonctionne tout ça, mais que s'adresser à quelqu'un d'autre que moi, quand je le fais, et quand je prends le temps de le faire, de bien me méditer, pas juste de dire ma prière rapidement dans Notre Père, mais là, de réfléchir à ce que contient Notre Père, par exemple, à chaque fois je trouve quelque chose qui est en relation avec ce qui m'arrive dans cette fichue prière là, qui est pourtant pas un texte long. À chaque fois je trouve des recettes et des choses qui m'aident à avancer, et puis je vois que même sans avoir imaginé ce qui va m'arriver, que dans les heures qui suivent, il se passe des choses que je trouve belles et qui sont inattendues. Voilà. C'est juste ça, et ça n'a rien à voir avec mon handicap en soi, je pense que c'est tout un chacun qui pourrait dire ça.
Potoir, c'est pendé, comptoir, les trottoirs. On voudrait s'y promener entre poteaux, sans se prendre un poteau ou une moto. C'est pendé, potoir, c'est pendé, comptoir, les trottoirs. On voudrait s'y promener entre potes, sans marcher dans une. Écoutez les bagnoles, vous êtes bien gentils, on voudrait circuler un peu, nous aussi. Écoutez les squatters, vous êtes bien sympas, nous se faufiler ça nous amuse pas. Écoutez les camions, vous êtes bien mignons, vos gros culs mal garés, ça nous rend grognons. Et vous les petits vélos, vous êtes rigolos, mais vous vous garez partout, tout va à vos lots. Libérez les trottoirs, c'est pendé, comptoir, les trottoirs. On voudrait s'y promener entre poteaux, sans se prendre un poteau ou une moto. C'est pendé, comptoir, c'est pendé, comptoir, les trottoirs. On voudrait s'y promener entre poteaux, sans marcher dans une. Bonjour Madame Poubelle, comment allez-vous? Mais dites donc que vous traînez n'importe où. Coucou les boutiques, oui, vous êtes sympathiques, mais vos superficies sont très élastiques. Les bistrots, chers amis, vos jolies terrasses sont agréables, mais prennent de la place. Et toi, publicité, quand tu en fais trop, c'est sûr qu'on finit par tomber dans le panneau. Libérez les trottoirs, c'est pendé, comptoir, les trottoirs. On voudrait s'y promener entre poteaux, sans se prendre un poteau pour une moto. C'est pendé, comptoir, c'est pendé, comptoir, les trottoirs. On voudrait s'y promener entre poteaux, sans marcher dans une crotte.
Regard sur la solidarité. Une émission en collaboration avec les radios chrétiennes du Grand Ouest.